Service après-vente de la F1.
Hello everybody and welcome to the service après-vente de la Formula 1. Un service après-vente consacré cette semaine au plus beau pays du monde, celui qui nous a donné Henry VIII, Max Mosley et Bernie Ecclestone. Et franchement, sans eux, le monde aurait été beaucoup moins drôle. Alors, au programme de cette émission, vous retrouverez vos rubriques habituelles pour un retour complet sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, un Grand Prix dominé par les Red Bull et dans lequel les pilotes anglais auront autant brillé que le soleil dans le ciel nuageux de Silverstone. Nous n'oublierons bien évidemment pas de revenir en détail sur la guerre des 6 jours entre la FIA et la FOTA, une war qui a vu la signature de ces accords de peace cette afternoon et que tout le monde il sait, mais que Max Mosley, il est le sunshine dans la life des constructeurs. So bref, ne perdons plus de temps et allons droit dans la butte avec nos deux froggies de Chic et de Choc. Hello Shinji, hello Enzo.
J'aimais mieux la première, pas toi Shinji.
Ah salaud. Ah bande de salauds. Alors, passe un bon
week-end. Hello Mr. Dino.
Hey, how are you?
Hello.
Hi, thank you.
This week it's a special English emission, hein. So maybe the French vont comprendre. But if they don't comprendre, they will follow to the Germany.
Oh là 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 là.
Hey. Moi je vous propose qu'on commence tout de suite cette émission par le chiffre inutile de Shinji comme d'habitude.
Et aujourd'hui, c'est un chiffre à peu près. Voilà, il y a les chiffres à peu près, il y a les gros chiffres, il y a les petits chiffres. J'essaierai un jour d'avoir un chiffre genre pi, vous savez quoi, un truc réel. Mais ça sera très dur, mais aujourd'hui c'est un chiffre à peu près. Et ce chiffre c'est à peu près 2000.
À peu près 2000, quantité de bière qui va se vendre sur le circuit au moment du Grand Prix.
Oh 2000 ça fait peu.
2000, oh bah quand même.
Oh, on est au Royaume-Uni hein.
C'est vrai. Donc de places de parking. Ah bah non parce que c'est sur des terrains boueux. Non moi je vois pas.
Non non plus.
C'est l'invention du loukoum.
Enfin.
C'est l'année d'importation du loukoum mangé par des pandas.
2000, c'est à peu près le nombre d'habitants du village de Silverstone.
Le truc trop con.
Voilà. On dit souvent Silverstone, c'est dans un coin. Ah ouais, il y a 2000 habitants à Silverstone. Alors c'est vrai qu'autour il y a Oxford, Milton Keynes, etc. Mais Silverstone, c'est 2000. J'ai cherché. Ça n'est pas le plus petit patelin à avoir un Grand Prix.
Ah bon?
Manicourt.
Alors, Manicourt, c'est vrai que c'était 1800 et quelques. Mais, c'est pas plus petit. Ah non, c'est pas si plus grand que 2000 habitants.
Singapour!
Non. Le plus petit patelin.
Attends, on va deviner, Qui, la Hongrie? Bah, je pense qu'il y a Bahreïn, parce que Bahreïn, c'est en plein milieu du désert, donc il n'y a pas des...
Voilà, c'est celui qui est hors catégorie, puisque lui, il est dans le désert, donc il y a zéro.
Il compte pas.
Il y a, peut-être Abu Dhabi, non? Il y a
La Chine.
C'est le petit village de Nürburg. 164 habitants.
Non. Il y a 164 peupleux à Nürburg.
C'est-à-dire qu'il peut filer des billets à tous les habitants du village, il faut même pas de fric.
Ah, mais tu connais pas Bernie, il le fera jamais.
Il y a 164 habitants à Nürburg, en Allemagne. À l'opposé, hein, donc la plus grande ville à accueillir un grand prix.
C'est Singapour.
Singapour.
Et Shanghai, c'est 18 millions d'habitants.
Ouais, mais c'est pas Shanghai.
Ah oui, il est à Shanghai, le grand prix.
Il est pas Shanghai même.
Ouais, voilà.
Il est à Shanghai. Mais attends, hein, je dis pas, c'est la Chine, hein. La Chine, une ville d'un million d'habitants, c'est une ville moyenne, hein.
C'est un village. Donc 2000, non mais franchement j'imaginais pas qu'il y en avait autant.
Ah tu pensais qu'il y en avait encore moins que ça?
Ah ouais moi je pensais qu'ils étaient, je sais pas moi, Silverstone pour moi c'était juste un aéroport avec un circuit et des maisons autour quoi. Je me disais ouais ils sont 500, 800.
Et Donington ça fera combien? Qu'on sache le chiffre du prochain Grand Prix de l'an prochain.
Alors déjà Donington Park est un circuit situé près de la ville de Castle Donington. Et il y a 7000 personnes.
Oh, dis donc, on est en ville. On va pouvoir aller faire les boutiques.
C'est le village le plus proche de l'aéroport d'East Midlands.
Ouais, mais...
Postal DHL sont les principaux employeurs.
Mais voilà, le...
C'est génial, hein.
Le truc, c'est qu'à Silverstone, ils ont l'aéroport dans le circuit.
Voilà.
Eh.
Et pour info, Donington, c'est jumelé avec Gagny en France.
Et quoi?
Gagny, c'est dans l'heure.
Alors,
et il y a 2800 habitants. C'est la folie. Donc toi, habitant de Saint-Ploug de machin dans la Lozère, garde espoir, car avec quelques euros, un peu de bitume, toi aussi tu pourras peut-être accueillir un jour un Grand Prix de F1. Toi, habitant de Saint-Michel-des-Farigoules dans la Dordogne, toi aussi tu peux rêver d'avoir un jour la F1.
Oh, c'est n'importe quoi. Un troisième. Toi, habitant du Vatican, toi aussi, Vatican. Bah merci Shinji pour ce chiffre inutile, et puis travaille bien celui de dans 3 semaines hein, parce que là le Neubourg
il est déjà écrit, et celui alors... de la Hongrie il est déjà pensé. Je peux vous donner le chiffre si vous voulez pour le match.
Ah toi tu veux donner le chiffre de donne ton chiffre de l'Allemagne, et puis on va laisser les quelques personnes qui nous écoutent essayer de deviner.
C'est 70 millions.
70 millions hein, donc vous,
c'est le plus gros chiffre hein de l'année.
Donc vous irez sur www.savf1.fr.nf et puis vous essayerez de nous proposer ce que ça peut être 70 millions.
70 millions.
Puis on verra qui c'est qui gagne.
Ouais.
Il y a rien à gagner hein, mais juste pour... une grande séance d'applaudissements pendant le SAV.
Ah ouais.
Bah merci Shinji.
Voilà.
Merci.
Donc ce week-end, vous avez fait quoi à part du golf?
Du golf.
On se serait cru au golf hein, quand tu vois Silverstone et ces belles étendues d'herbe.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, apparemment, il y avait que ça, parce que Kimi, il a roulé sur l'herbe au départ. Hein.
Ouais.
Donc apparemment, il trouvait qu'il y avait trop d'herbe, qu'il n'y avait pas assez de goudron. Il s'est dit, je vais quand même mordre sur l'herbe pour bien leur faire comprendre qu'il y a trop d'herbe.
L'herbe synthétique. L'herbe synthétique.
Ils mettent du synthétique en anglais.
Ah non, excuse-moi, je confonds. Parce que en fait, j'ai enchaîné l'enregistrement du Grand Prix que j'avais fait avec l'enregistrement de Secret Story. Et la pelouse à l'intérieur, c'est...
Et oui, maintenant vous savez où va puiser toutes ses ressources Enzo, en fait, il va directement dans Secret Story et il trouve toutes les vannes, hein, comme ça, dans Secret Story.
Voilà.
Donc, Enzo, toi tu l'as vu quand le Grand Prix?
Lundi soir et hier soir.
En deux parties?
Oh,
en deux parties.
C'est intéressant.
Alors c'est la question, c'est à quel moment donné tu t'es endormi?
Voilà.
Sincèrement, je l'ai limite trouvé pas mal.
Ouais, limite pas mal, ouais. Fallait pas regarder la première place, mais sinon derrière c'était sympa.
Ouais, voilà.
Il y avait... pour la 16e place, ça bataillait.
Ah, il y avait plein de choses. Ah oui, c'était beau ça. Il y avait plein de choses. Avant de revenir sur Silverstone, est-ce qu'on revient sur la guerre des 6 jours?
Hein, bah, on peut, hein.
Sur cette guerre qui était censée faire couler énormément de sang, puis qu'au final ça aura fini en bataille de bisous et... Donc oui, vendredi, ils ont donc annoncé qu'ils avaient l'intention de créer un championnat parallèle. Comme par hasard, c'était la date limite pour annoncer pour la FIA la date définitive, la liste définitive des participants au championnat 2010. Et donc il y avait eu des négociations le jeudi et les négociations ont encore avorté. Et là, papapam, tout le monde arrive vendredi matin, la nouvelle tombe, championnat parallèle. Unanimité des 8 équipes en plus. Enfin, des 8 équipes de la FOTA en dehors, ouais. Williams et Force India qui ont été exclus temporairement. Donc là, comment ont réagi les fans que vous êtes?
Ah!
Ou chouette, deux fois plus de fans l'an prochain.
Oh non, pas ça.
Attends, t'aurais pas regardé les deux, toi?
Non, trop pas.
Tu me diras, t'as déjà du mal à regarder le Grand Prix d'Angleterre. Donc ouais, vendredi, alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à chaud, de cette histoire-là?
Bah, c'était quand même un choc, parce que c'est un truc qui a longtemps circulé, mais que là, ils l'annoncent, enfin, qu'ils le disent, quoi, qu'ils disent plus « on a l'intention de le faire, mais on va le faire », c'était quelque chose.
Ouais, mais ils ont déjà fait le coup, les grands constructeurs ont fait le coup il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, donc... Non, sincèrement, moi, ça m'a pas du tout inquiété.
Bah moi j'étais quand même un tout petit peu inquiet. Enfin, moi j'ai, pour tout vous dire, moi j'étais inquiet et en même temps très content. Je me suis dit, voilà, on va avoir au moins une fin de saison super intéressante où on va parler de nouveaux circuits, de nouvelles équipes. On va avoir plein d'informations en plus, donc les fans de F1 vont être contents, il y aura deux fois plus d'informations. Et j'avoue qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils ont fait la paix, je suis content pour la F1, mais je suis en même temps un peu déçu. Il y aura moins d'action dans les prochaines semaines. Et là, je suis d'accord avec Bernie Ecclestone quand il dit « Mais tout ça, c'est bien pour la F1, on parle de nous, c'est la meilleure du monde. » Eh ben, je suis d'accord avec lui.
Mais t'inquiète pas, de toute façon, on est bientôt au mois de juillet, on va pas arrêter de parler des transferts. Et puis alors, cette année, en plus, ça devrait bouger.
Oh, bah, c'est très bien de faire une émission spéciale transfert.
Oula.
Ah non.
On n'est pas au foot non plus.
Le mercato.
Le mercato de la F1. Alors, en transfert, bah, c'est, en même temps, et si ça fait comme l'année, ça fait deux ans qu'on nous promet qu'Alonso va déménager ailleurs.
Oui, qu'ils viennent. Justement, ça fait deux ans que ça
bouge un peu la F1. Surtout qu'ils viennent, hein, parce que là, il y en a marre.
Il y a des cycles. Ça fait deux ans que ça bouge moyen, donc là, cette année, ça devrait bouger.
Oui, alors c'est le même Shinji qui nous disait l'année dernière que, de toute façon, fallait pas s'inquiéter, 2008 pour Raikkonen, c'était une erreur, de toute façon, les années paires, il est jamais bon. 2009, c'est une année impaire, il est toujours bon. La preuve, 2003, 2005, 2007, bonne année, donc 2009, il était censé être bon. Nous vous laisserons juger, hein, cher ami auditeur, hein, est-ce que Shinji avait raison? C'est vraiment un problème de voiture, tu crois? Parce que bon, même avec une mauvaise voiture, il est pas ultra dominant face à Massa. Mais on y reviendra. Ah mais ça y est, moi je m'en fous, j'ai un nouveau chouchou.
Moi aussi.
Et je vous laisse deviner qui c'est.
Alonso.
Ah non, moi c'est Vettel. Même si.
Et
je...
qui c'est qui t'a annoncé il y a quelques grands prix qu'il allait être champion du monde cette année?
Bah j'y ai recru ce week-end.
Ah mais j'y crois toujours moi.
Ouais.
Je même quand Button a continué à aligner les victoires comme les perles, je t'ai dit il peut encore gagner.
Ouais mais quand même il avait fait quand même pas mal de boulettes et
tu vas voir, il le sera.
Non mais c'est quand même la grande nouvelle de ce Grand Prix, que tout n'est peut-être pas joué.
C'est vrai.
Si tout est joué, Vettel va gagner.
On en reparlera après. Donc revenons sur notre guerre des 6 jours. Donc le premier jour vendredi, allons dans un championnat parallèle.
Ouais, c'est pas le premier jour hein, non plus. Hein. Il y a quelques mois que ça a commencé.
Ouais, c'est quelques mois, mais bon là la déclaration était officielle que maintenant ils abandonnaient toute négociation, en même temps ils n'avaient plus trop de choix. Et en fait ils ont pris les devants par rapport à la FIA. C'était soit la FIA qui dévoilait une liste de 13 équipes avec aucune équipe de F1 dedans, enfin à part Ferrari, Red Bull et Toro Rosso, soit les constructeurs qui disaient bah, de toute façon nous ça nous intéresse plus, on fait notre championnat parallèle. C'est la décision qui a importé et qui a déclenché. Il y a qu'à voir. Hein, je pense que s'il n'y avait pas eu la décision, Mosley et Ecclestone auraient sans doute eu un week-end un peu plus tranquille que ce qu'ils ont eu. Parce que les images vendredi en essai, c'est limite, on nous passait toutes les 5 minutes une image des paddocks avec Ecclestone et Mosley qui étaient assaillis par une centaine de journalistes. Donc, à partir de l'annonce... ça a été plutôt, je trouve, discret, moi, en Formule 1. Je sais pas, Shinji a suivi le week-end comme moi. Et moi, j'ai trouvé ça assez discret au niveau des équipes. Il n'y a pas trop eu de parole.
Non, ils ont voulu reconcentrer les journalistes et puis eux-mêmes sur le sport.
Ouais, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché.
Ouais.
Et donc, tout ça, pendant le week-end, ça a commencé à mûrir. Et puis, on a eu des déclarations comme quoi USF1... qui, rappelons-le, doit intégrer le championnat l'an prochain en Formule 1, affirmer que eux, s'ils n'avaient pas les plus grandes équipes et les plus grands pilotes, bah, ils iraient courir pour la formule adverse. On avait aussi Rosberg qui avait déclaré que lui, s'il n'y avait pas les plus grands pilotes, il signerait dans une écurie du nouveau championnat. Et puis on avait déjà une ébauche de calendrier, il y avait des circuits qui se manifestaient, comme Abu Dhabi, comme Silverstone, bien évidemment. Et il y avait même un nom qui était proposé, le New Formula. Voilà, le nom le plus pourri qu'on pouvait
trouver. Ah ouais, rien que pour genre, ça mérite de pas exister.
GP1, ça aurait été bien, mais New Formula... Et donc on en est arrivé à l'échéance d'aujourd'hui, hein, avec hier un calendrier qui a été publié par le très sérieux journal anglais The Guardian, donc qui annonçait 17 dates... plus ou moins fantasque d'ailleurs. Hein.
Oui.
Il y avait Imola. Imola, je suis plus sûr qu'il puisse accueillir la F1 maintenant. Il y avait l'Argentine. Je pense que l'Argentine aurait aussi besoin de se dépoussiérer un peu. Et puis, il y avait quoi d'autre? Il y avait quelques trucs.
Il y avait Helsinki.
Il y avait Helsinki, oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça a existé. Il y a eu un Grand Prix. Il y a eu une course tracée en ville pour le DTM en 80, ouais. Hein, 95, 96, 97.
Chose comme ça, ouais.
Et donc on en est arrivé à aujourd'hui, il y avait deux dates à retenir cette semaine hein, pour le fan de Formule 1. Il y avait la date de mercredi, donc aujourd'hui, le jour où on enregistre, où le Conseil mondial de la FIA se réunissait. Il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour, enfin c'était pour parler de je sais pas quoi, et puis apparemment c'était surtout pour mettre la position de Mosley en jeu. Et il y avait une réunion qui avait été annoncée demain, comme quoi c'était la première réunion de travail du nouveau championnat. Mais qu'ils avaient quand même habilement placé la réunion le jeudi, donc après le mercredi. Comme ça, si jamais le mercredi, il y a une annonce extraordinaire, la réunion du jeudi peut changer d'ordre du jour.
Voilà.
Ce qui va arriver, puisqu'on a appris en fin de journée, qu'il n'y aurait pas donc de deuxième championnat. Et que donc, l'année prochaine, Mosley ne se représenterait pas. Et puis, il y a quoi d'autre?
Est-ce que tu crois que c'était une condition, ça, sine qua non, pour qu'il signe?
Oui, bah c'est certain.
Je pense, oui.
Mosley, ils ont mis ça dans la balance. Hein.
Mosley avait déclaré il y a quelques mois que lui se représenterait pas en octobre. Et en début de semaine, il a dit que étant donné la crise, peut-être qu'il se représenterait au mois d'octobre. Donc je pense que c'est aussi ce qui a précipité les équipes. Elles se sont dit, de toute façon, s'il se représente, faut qu'on termine tout de suite. Donc je pense que c'est ce qui a suscité le haussement de ton. Mais c'était pas non plus la seule chose qui était en balance. Ils ont saisi l'opportunité pour aussi s'assurer que l'année prochaine, Mosley serait pas là.
Voilà. Donc là, ils ont coupé la poire en deux. Ils démissionnent pas, mais ils se représentent pas.
Sachant qu'en plus, le Conseil mondial et tout est contrôlé par Mosley. Donc, il y aura un successeur qui sera plus faible que Mosley. Mais bon, ça sera toujours la même direction. Donc, je pense que les équipes avaient aucun espoir de pouvoir placer un de leurs hommes à la tête de la FIA. Donc, ils se sont dit, autant le faire partir lui. Puis trouver une nouvelle tête comme Donnelly, hein, qui a menacé Brown il y a quelques semaines, ou un autre.
Jean Todd,
pourquoi pas, ouais.
On en avait parlé à une époque.
Il y a Jean Todd, il y a Ross Brown, il y a pas Ross Brown, mais Ron Dennis.
Il y a Vatanen.
Qui ça?
Harry Vatanen.
Ah ouais, ça serait bien ça en plus. Puis il a été député européen, donc ça serait un bon père. Tiens, moi je vote pour Harry Vatanen. Tiens, on fera une spéciale élection. Après la spéciale transfert, la spéciale élection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans les accords, Shinji? Je crois que t'es un peu plus informé, je crois.
Alors oui, les accords Concorde sont prolongés apparemment dans le même jusqu'en 2012. Et donc pour ce qui concerne la réglementation technique, ça serait celle de 2009.
À noter qu'apparemment le budget plafonné est abandonné.
Est-ce qu'ils abandonnent les ravitaillements?
Oh non, ça je pense que ça va rester dans les objectifs. Dans
ouais.
Le...
Ah, ça c'est. Surtout que c'était pas les trucs proposés par la FOTA, ça?
Oui, je crois que ça avait été proposé par la FOTA au départ, en même temps que le raccourcissement des courses et compagnie. Je pense que le conflit il était surtout sur les budgets plafonnés. Ouais. Et puis sur une vision d'ensemble de ce que devait être la Formule 1 de demain, et puis
il y aura pas de double réglementation.
Voilà, je pense que voilà, il y aura pas de budget plafond, il y aura pas de double réglementation. Les équipes par contre en échange s'engagent pour les meilleures des équipes s'engagent à offrir un partenariat avec les petites équipes, à aider les petites équipes.
Oh.
On sait pas encore sous quelle forme.
On va donner son double diffuseur à Ferrari alors.
Ouais.
Non mais par exemple aux trois nouvelles équipes qui vont rentrer l'année prochaine, apparemment je pense qu'il y aura
ouais qu'il y ait des aides, c'est bien ça.
Voilà, ils vont se mettre des aides, ils vont peut-être aussi pourquoi pas négocier une enveloppe sur les revenus de la publicité d'une année sur l'autre pour les petites équipes. Donc voilà. Et puis les équipes, alors par contre, s'ils ont abandonné le budget, alors il y a quelque chose de très très flou et très très ambitieux en même temps. C'est apparemment, ils ont pour objectif de revenir à un coût de la Formule 1 des années 90.
Ouais.
Bon. Encore faut-il savoir combien ça coûte exactement.
Combien ça coûtait, faut penser à l'inflation, voilà.
C'est grosso modo, voilà, ils se donnent bonne conscience, mais... Et puis, il se murmure qu'il pourrait y avoir un rôle actif de la FOTA. En tant que...
Le truc, c'est que la FOTA donc reconnaît la FIA comme étant vraiment l'organisateur de la F1. Sous-entendu, la F1-CE, il n'y aura pas de championnat parallèle. Et en contrepartie, ils reconnaissent la FOTA comme une entité de la F1.
Voilà.
Donc avant, il y avait la FIA et la FOM pour l'argent. Et
il y a FIA, FOTA.
Maintenant, FIA, FOTA, FOM.
Avec chacun bien...
C'est pas compliqué, ça, hein.
Ouais.
Ah, ça veut dire surtout que les équipes pourront faire des propositions techniques pour les réglementations et tout
voilà,
ça.
Voilà, je pense qu'il y aura des procédures genre veto et pourquoi pas proposition de choix de, enfin ils pourront peut-être proposer un règlement technique. Voilà, ouvrir des débats, influencer sur les ordres du jour, etc. Donc en gros, c'est une guerre qui n'a pas fait couler de sang.
Non.
À part celui de Williams et de Force India il y a quelques semaines. Puisqu'ils ont été exclus de la FOTA temporairement. Mais ouais. Par contre, qui aura fait un blessé grave, voire, voire une grosse victime, c'est Mosley. Qui est clairement en position de faiblesse aujourd'hui, au sein de, pas au sein de la FIA, mais au sein de la Formule 1.
Oui.
Même si aujourd'hui, alors, il a tendance à dire...
Mais il aime se faire fouetter, mais...
Ah oui. Non mais ce qui est très drôle, c'est de voir Mosley qui dit que grosso modo la victoire, elle est en partie, enfin la réconciliation, elle est due à lui. Et puis c'est de voir les Montezemolo et compagnie qui mettent de l'eau à son moulin en disant oui, non mais sans le sens du compromis de Max Mosley, etc., rien n'aurait été possible. Donc c'est le bal des faux culs, quoi.
Bah ouais, c'est life, hein, quoi.
Et moi c'est ça aussi qui me déçoit, quoi.
Ouais.
Je m'étais dit que bon, ça je pensais pas qu'il y aurait, même si j'avais envie d'en voir un parce que ça m'amusait, mais je pensais pas qu'il y aurait à terme un championnat parallèle. Mais voilà, je me disais quand même quand ça va se finir, va y avoir des choses qui vont changer parce qu'ils sont allés trop loin. Et non, ils reviennent, ils se disent bonjour, ils se font la bise, ils serrent la main et ah oui, mais on est très admiratif de Mosley. Et puis Mosley, oh, bah les équipes sont très sérieuses, on a bien travaillé avec eux. Genre ils nous ont pas fait chier pendant 6 semaines avant, ils nous avons juste que voilà, on a revu les accords Concorde et tout, c'est super bien, on est super content. Et ça me déçoit aujourd'hui, mais un truc grave.
Bah c'est comme quand chaque année t'as du Briatore et Rand Dennis qui s'envoie des vannes à travers la gueule et puis qui sont potes à la fin de la saison en disant oui. Bravo, t'as fait une belle course, une belle c'est pareil hein.
On se rappelle c'est 2007 après l'affaire d'espionnage et puis Rand Dennis et Dominic Ali qui se faisaient des compliments super visqueux, voilà, tellement c'était bonbon rose dans la presse une semaine avant le Grand Prix d'Australie en disant oui mais je respecte profondément Stefano Dominicali, il fait un super bon travail. Voilà, et puis Dominicali qui disait non mais Ron Dennis c'est l'un des meilleurs patrons de la Formule 1 jamais connu. Et les mecs trois mois avant ils se tapaient sur le coin de la gueule quoi. Donc voilà, c'était le ça a même pas de nom cette histoire.
Un non événement.
Voilà.
Et plus qu'à attendre le prochain scandale.
Ouais, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On fait des politiques. Ah non, ça, sérieusement. C'est vrai que ça fait quand même des années, on se dit, bon, l'affaire d'espionnage, ils feront pas pire.
Ouais.
Juste derrière, le scandale sexuel de Max Boss. Ah. Après, on dit, bon, bah là, on peut pas tomber plus bas. Juste derrière, menace de scission.
Les commissaires de la FIA vont bien trouver un truc de pas légal sur la Braun.
Surtout pour l'ordre du prochain Grand Prix, on sera en Allemagne, il y aura des pressions et tout. Ce qui est dingue, c'est que on a traité ce conflit de manière, je trouve, pas polémique. C'est limite, on s'en foutait.
Non, mais je veux dire, il y avait rien à dire. Hein. On en a beaucoup trop parlé déjà. C'est un peu comme les diffuseurs. On entendait parler que de ça au début, et puis voilà, tout le monde a le droit de le faire. Et on s'aperçoit que finalement, ça a rien changé.
Ouais.
C'était un non-événement, encore une fois.
Donc, on passe à Silverstone. Et puis je pense qu'on fait un petit arrêt là comme c'est axé.
Au revoir, voilà. Silverstone.
juste comme ça pour faire un petit tour de table sur Silverstone. C'était son soi-disant, enfin c'est pas sûr à 100%, mais normalement c'est la dernière. L'année prochaine on va à Donington, un Donington Park profondément rajeuni théoriquement, mais en grande difficulté. Donc ce qui fait qu'on pourrait quand même revoir
le seul circuit où on peut faire le meilleur temps en passant par les cendres.
Pour aller dans un coin où le plus grand monument est une centrale électrique.
Moi, à la limite, qui se barre de Silverstone, d'accord. Mais qui va partir pour Silverstone? Tu vas pas à Donington Park, qui a reçu aucun grand prix dans son histoire.
Mais quel grand prix, quand même. Explosion de Rubens Barrichello, le magnifique premier tour de Senna, la magnifique débandade stratégique de Prost sur Williams et la super course des Lettenhaus là-bas.
Ah, Lettenhaus, ça nous faisait ça nous manquait que tu nous en parles pas des Lettenhaus.
vous devriez avoir honte, vous êtes même pas au courant, ça existait plus Lettenhaus dans d'un culte.
En 93, c'est ça?
Mais oui.
Ça existait plus.
Bien sûr que non.
Donc Silverstone, impression sur le départ, ressentiment envers Bernie Ecclestone.
Bah, c'est compliqué. Moi, je suis triste, mais en même temps, c'est vrai que on n'a pas non plus l'impression que les promoteurs, ceux qui possèdent le circuit, aient vraiment fait grand chose pour qu'il reste.
C'est vrai.
Alors, on demande pas non plus à ce que ça ressemble au Grand Prix de Chine ou je ne sais quel circuit high-tech. Mais c'est vrai que voir les dégagements en gazon, les tribunes, on avait l'impression, je sais pas, d'être à Wimbledon, tiens, voilà.
Ouais, voilà. Ah non, quoi que maintenant, Wimbledon, ils se sont modernisés, ils ont mis un toit.
Voilà, après Wimbledon, ils se sont modernisés.
Mais moi, j'aime bien, justement, c'est ce que je trouve ce qui fait la force aussi de Silverstone, c'est qu'il n'y a pas ces énormes dégagements en bitume ou en herbe synthétique où les mecs peuvent mordre dessus, ce qui fait que c'est un défi pour les pilotes. Et d'ailleurs, on le voit hein, ce week-end, on a vu Alonso lors des essais, enfin pas qualificatifs, mais les essais, quoi. Les essais libres, voilà. Merci Chédier. Donc on a vu Alonso lors des essais libres régulièrement devant. Parce qu'il fait la différence avec son pilotage. C'est la voiture et le pilote, mais à Silverstone, c'est surtout le pilotage qui fait la différence. Et on l'a vu aussi en course avec Vettel. Voilà, il n'y a rien à dire. Et c'est ce que j'aime justement dans ce circuit, c'est que c'est un circuit un peu à l'image de Monza, un peu à l'image de Spa. C'est un circuit qui ne pardonne pas l'erreur.
Oui, à ça,
et,
oui.
Moi, je pense qu'il faut en garder. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est structure d'accueil, c'est... les tribunes... Et quand j'ai appris qu'ils avaient rénové il y a quelques années, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule. les stands sont... je crois que c'est des stands à un étage, etc. Enfin, c'est du foutage de gueule. Donc c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, du côté des promoteurs, il n'y a vraiment eu aucun effort de fait pour... améliorer l'accueil du circuit, etc. Ils ont vraiment gardé le circuit vieille manière.
En même temps, ça lui donne une ambiance. Mais bon, face à la concurrence maintenant...
Et donc toi, Enzo ?
Qu'est-ce que je retiendrai de Dominté
de Silverstone ?
De Silverstone ? Ben, le tournant du championnat 99.
Ouais. C'est vrai.
Quand même.
C'est vrai.
On a fait 8 fois champion du monde. 9 si on compte la saison 1.
Tu vois, à ce moment-là, t'aurais bien aimé que les dégagements soient plus grands.
Non, parce qu'en même temps, je trouve que ça, entre guillemets, a grandi le bonhomme, quoi.
Oui.
Il est revenu vite en compétition. Voilà, il a montré un visage humain en se battant pour le titre de Irvine. Bon, voilà.
Mouais.
Se battre pour le titre d'Irvine, c'est un grand mot, ça.
Non, mais disons qu'il a pas gagné course sur course. Il aurait pu le faire. Hein. Il aurait joué sa carte. Mais il a joué la carte d'Irvine.
Ouais.
Je suis pas persuadé. Hein.
Oui, en même temps, c'est vrai qu'il pouvait pas forcément non plus être très motivé à l'idée de voir Irvine être le premier champion Ferrari depuis 30 ans. Enfin, 20 ans. Surtout pour les 20 ans du dernier titre de Scheckter. Donc, bon, ok. Ouais. Mais il a pas non plus, il a fait aussi le jeu de l'équipe. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ah, de l'équipe, oui.
Donc.
Non, donc, si les Silverstone, voilà. Moi, j'ai pas de souvenir de course mémorable. Allez, si ce n'est peut-être la victoire de Mansell en 92, mais elle était même pas mémorable par la course.
Par c'est mémorable par la suite.
Ouais.
Mais sinon, on n'a pas vraiment de course.
Et c'est un circuit qui révèle les pilotes, qui révèle les champions. Après, c'est vrai que on y dépasse très difficilement. Moi, c'est un circuit que j'aime bien regarder. Moi, je l'ai vraiment découvert en regardant des essais. Et donc, je regardais surtout les voitures faire des temps dessus. Et c'est un circuit sur lequel on prend du plaisir à regarder quand on prend pilote par pilote la performance, quand on essaie de regarder les trajectoires que prennent les pilotes au niveau pilotage. Parce que là, c'est un magnifique circuit. Sinon, c'est vrai que pour l'action en course, c'est pas, c'est pas Francorchamps, c'est pas.
C'est clair.
Donc, on passe aux qualifications. Aux dernières qualifications de Silverstone.
Ouais. Alors, au fond de la grille, mais pas vraiment au fond de la grille, puisqu'il est parti descendre, c'est Adrian Sutil, qui s'était classé 18e, donc il n'a pas non plus vraiment beaucoup perdu, sur Force India. Il a été accompagné à la 19e place par Sébastien Buemi. Ensuite, à la 18e place, notre champion du monde.
God save the king!
Lewis Hamilton.
Non, il était si loin.
Ouais, 18e.
C'est ça?
Ouais. Bon, et ce qu'il faut dire, c'est que quand même, il aurait pu se qualifier en Q2 parce qu'il n'a pas été nécessairement super mauvais ce week-end. Hein. Il a été grosso modo entre la 13e et la 15e place. Mais malheureusement pour lui, Sutil a cassé ses freins à 25 secondes de la fin de la séance, alors que tout le monde a amélioré. Et donc ça a été drapeau rouge, et à la fois Hamilton, à la fois Bourdais, etc., ils sont passés ils sont tombés en Q1 alors que ils amélioraient.
À noter que Sutil, il est parti des stands. Il a d'abord été rétrogradé en fond de grille pour avoir changé son châssis.
Voilà.
Pas son moteur ni sa boîte, mais son châssis.
En même temps, c'était conseillé qu'il change de châssis.
Voilà. À la 17e place, notre pilote Sébastien Bourdais.
Wouhou! Même raison
que. Il devrait faire que le Mans, lui, hein.
Oh non! Ouais. nous l'enfonce sur le Mans! On a suivi 17 heures des 24 heures du Mans. Et on est tombé sur les deux boulettes de Bourdais. Merde!
16ème place, Giancarlo Fisichella, sur la 2ème Force India. 15ème, ça devient une habitude, Nick Heidfeld sur BMW.
Voilà.
14e, c'est encore plus une habitude, Nelson Piquet.
Oui, il est quand même passé en Q2. Hein.
C'est vrai. 13e place, encore une fois, il est devant son coéquipier Kovalainen sur McLaren.
C'est à 4 partout maintenant entre les deux.
Ouais, pas mal. Voilà. 12e, c'est presque un bon résultat, c'est dingue à dire, mais c'est le cas. Robert Kubica. 11e, Felipe Massa. Puis on rentre dans la Q3 à 10e place.
Il est même plus énervé quand on entend 11e Felipe Massa, quoi. C'est...
Oui, c'est vrai. j'étais en train de me dire. Hein, il a dit quel nom de...
On était furax quand on disait ça. Quoi.
En plus, qu'est-ce qui lui est arrivé à Massa? Elle a fait une boulette, je crois. Ouais, elle a fait une boulette.
9e place, Raikkonen.
Ouais.
8e place, Timo Glock. 7e, Nico Rosberg. Grande surprise. 6e place, Jenson Button. Sur sa Brown.
Ouais, plus mauvaise qualification de la saison.
Qui est même derrière Nakajima, qui se classe à la 5e position.
Et si je me trompe pas, Nakajima, c'est sa première fois en Q3.
Oh.
Pas joli, hein.
Bah ouais.
Ah oui.
Ah ouais. Pas joli. Puis devant, je crois que le rapport Rosberg-Nakajima, c'est 7 contre 1 en qualification depuis le début de la saison.
Ah oui. 4e, Jarno Trulli. 3e, Marc Weber. 2nd, Rubens Barrichello.
Qui a pris la 2e place à Weber, parce que Weber, il jouait quand même la pole à un moment donné.
Ah oui. Et enfin, en pole, en 1.19.509. C'est la 3e pole position pour Red Bull, la 157e pour Renault, à une moyenne de 232,774 km/h. Merci Stat F1. Sébastien Vettel.
Et tout ça en étant le plus lourd des 10 premiers.
En étant le plus lourd.
Voilà. Confirmant ainsi la bonne forme des Red Bull ce week-end.
Tu m'étonnes.
Ouais. À la vache. J'étais surpris. J'étais sûr qu'il remonterait pas. Et j'ai eu tort.
De qui ne remonterait pas?
De Red Bull.
Tu.
Ah, j'avais des doutes. J'attendais de voir les nouveaux délais. J'étais persuadé qu'en fait, les dernières évolutions, elles avaient été déjà apportées. Et non, en fait,
non.
New Way, il attendait d'être juste à côté de l'usine qui se trouve à Milton Keynes. Donc, c'est...
C'est même
à pied, ils peuvent ramener les pièces sans problème. Et ouais. En fait, il a attendu qu'il soit à côté de l'usine pour faire essayer toutes les pièces.
Ouais.
Il s'est dit comme ça, on va tout essayer, et puis si jamais il y a un truc, on ramène à l'usine, puis on pourra ramener d'autres trucs dans la nuit.
C'est pas con, hein.
Et ils ont essayé plein de trucs, et résultat, apparemment, tout ce qu'ils ont essayé, ça marchait du feu de Dieu. Et la voiture, alors déjà la voiture est plus belle, je trouve.
Ah, la Red Bull a gagné
elle a un nez en canard.
Voilà, un plus gros pif, mais ça lui va très bien.
Et puis, impressionnante, surtout le week-end.
Ah
même
oui,
si elle semble moins agile que la Braun, on voit quand même les pilotes un peu plus de débattre avec la voiture.
Et encore, faut voir.
Oui. Sinon, au niveau aérodynamique, c'est une perle.
J'ai vivement hâte du Grand Prix d'Allemagne parce que bon, les Button, il y a eu des circonstances un peu particulières.
Il faisait très frais.
Voilà. Il faisait frais. Et faut vraiment souhaiter qu'en Allemagne il fasse chaud pour vraiment voir ce que ça va donner les Braun contre ces nouvelles Red Bull.
Ouais. Donc petite statistique sur les qualifs. D'abord on peut peut-être j'ai sous les yeux les rapports de force entre coéquipiers en qualification. Si ça vous dit, je vous les donne.
Bien sûr.
Donc chez McLaren, Hamilton et Kimi Räikkönen sont à 4 partout. Chez Ferrari, Raikkonen mène 5 jeux à 3.
Non.
Ouais, je te jure. Pour Kubica, c'est un score de tennis chez BMW avec 6-2 face à Heidfeld. Chez Renault, j'ai même pas envie de vous donner le chiffre parce que tout le monde le devine, c'est 8-0. chez Toyota, une statistique dans la normale puisque c'est Trulli qui mène 6-2 aussi.
Ouais, mais bon, il a pas démérité, Glock. Hein.
Non,
voilà, mais c'est face à Trulli qui est un super bon, il est super rapide sur un tour. Il est moins bon sur deux tours, mais sur un tour, il est bon.
Glock est derrière, mais pas très loin.
Voilà. De même, même résultat chez Toro Rosso en faveur de Buemi, 6-2 par rapport à Bourdais. Alors là, on s'en rend pas compte, mais oui, effectivement. Chez Red Bull, 8-0 en faveur de Vettel.
Non.
Ah ouais, quand même.
8-0. Je pensais qu'il y avait au moins 6-2 ou même 7-1, mais non, 8-0. Alors que en course, je crois que ils sont c'est la première fois que Vettel est en est devant Weber depuis Bahreïn, je crois. Non, pas Bahreïn. Oui, c'est Bahreïn. Ensuite, chez Williams, la première fois que Nakajima se place devant Rosberg ce week-end, donc ça fait 7-1 pour Rosberg. Chez Force India, c'est égalité partout, 4-4. Et chez nos amis de Braun Grand Prix, c'est 6-2 en faveur de Button. Assez logique.
Ouais.
Donc, ce Grand Prix, le départ d'abord.
Eh bien, beau départ. Ça dépend pour qui.
Ouais, voilà, ça dépend pour qui. Beau départ de Vettel, déjà, qui s'élance très bien.
De la file de gauche.
Voilà. Barrichello fait un super bon départ. Sur l'extérieur, sur la ligne des avantagés.
Il devait se faire pardonner de la Turquie.
Hein. Ouais, voilà.
C'est clair.
Weber, qui espérait prendre la deuxième place à ce moment-là, a dû faire avec, mais bon, c'est pas grave. Et super bon départ des deux Ferrari.
Ah oui.
Alors là, Raikkonen, qui était 9e, 8e, 8e je crois, qui arrive 5e,
même.
Qui était 9e, qui arrive 5e dans COPS. Ouais, c'est ça, c'est COPS. Et
en prenant large en plus. Hein.
Ouais, en prenant large.
Avant, il y avait une vue de face. J'avais presque l'impression que la voiture...
Elle était sur l'herbe.
La piste, quoi.
Ah oui, non, mais sérieusement, la voiture était sur l'herbe.
Ah oui.
Et en prenant à l'extérieur, et puis il a emmené dans son sillon Massa, qui partait 11e, qui lui aussi a fait un super départ. Et ils ont notamment gagné une place parce que celui qui a fait un très mauvais départ ce week-end, c'est Jenson Button. Alors lui, il a foiré son départ dans les grandes largeurs.
Il a oublié de pousser sur le bouton.
La Trulli aussi, hein, qui perd des places.
Attends, ça quand on s'en prend.
Il est pas en tête du championnat. Donc tu disais Enzo, il a oublié d'appuyer sur le bouton.
Il a oublié de pousser sur le bouton.
Ah ouais, parce qu'il a, il a un nouveau casque où il y a écrit push the button.
Ouais.
Ah, c'est juste pour cette course. Hein.
oui, on t'espère.
Ouais.
Non, il est déjà fait.
Ah, il est déjà fait le casque.
Non, c'est pas vrai.
Et chaque fois, il nous induit en erreur. Donc, un départ plutôt sage.
Oui, mais c'est Silverstone, hein. La piste est pas très large, donc une fois que t'as pris la trajectoire, c'est bon, quoi. Faut pas faire de folie.
Donc voilà, bon, on a fait le tour du départ, hein. On va remonter la grille. On a l'impression que cette course, elle était chiante, en fait.
Oh, bah, elle était un peu, mais pas trop, non plus.
Donc, on a une victoire de Sébastien Vettel.
Oui.
La deuxième cette saison, la troisième de sa carrière, la deuxième pour Red Bull, la je sais pas combien tième pour Renault.
Et encore une fois, en partant de la pole.
Et oui, c'est vrai, tiens, encore une fois. Ah, dommage.
Oui.
Non, je dis dommage.
Bah oui.
Et donc, c'est la 117e victoire pour Renault en tant que motoriste. En même temps, cette année, c'est cette saison, hein, Renault, c'est tout ce qu'il leur reste. Hein.
Oui.
À part les yeux pour pleurer, il en reste Red Bull. Donc voilà, Vettel, que dire
Bah, pilote impressionnant dans une voiture qui a été franchement incroyable ce week-end.
Ouais. Et d'une, enfin fiable en plus, c'est ça le truc. C'est,
oui.
Ils ont apporté plein de nouvelles pièces. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes et puis en fait non. Nickel la voiture.
Ouais.
Mais d'ailleurs il a donné un coup de poing à la fin au pied du podium sur le capot de sa voiture. Parce qu'en plus il donne un prénom à chacune de ses voitures qui gagne. Hein.
Ça m'aurait fait délirer, c'est qu'il donne un coup de poing et là tu vois tout qui s'écroule.
Donc Vettel qui met quand même 15 secondes à son coéquipier Weber.
On s'est même demandé un moment s'il allait pas être en tête vraiment tous les tours, nous faire un grand chelem.
Ouais. Weber, bon week-end.
Ah bah oui, bah lui aussi. Ouais, hein. Il...
Pardon.
Oui, non, vas-y Enzo.
Non, je disais, il a fait fort aussi pour reprendre la seconde place.
Ouais. Ah oui.
Il s'est bien bataillé avec Barrichello.
Que malgré un arrêt assez long, il a quand même passé Barrichello, quoi. Je pense qu'il a fait un tour de sortie assez impressionnant.
Mais globalement, surtout le week-end, il a été bon, Marc. Et moi, j'avais même pronostiqué pour la pole.
Ah, il aurait pu, hein, s'il n'avait pas été gêné.
Bah, c'est parce que. Il a été gêné, puis bon, bah, Vettel a sorti le tour, comme il fait à chaque fois qu'il fait la pole, hein, il te pond le tour sans faute, il n'y a pas une erreur.
Là, pour le coup, pour Weber, ça devait vraiment être frustrant. Parce que la voiture était super bonne, il a super bien roulé. Et puis voilà, quoi, il y a juste une personne au-dessus de lui, quoi.
Mais je pense que ce que Weber doit se dire surtout, c'est que il doit repenser aux, je crois, ces 3 ou 4 grands prix qu'il a fait. Il a fini devant Vettel et se dire bon bah je vais être devant lui que quand il aura un pépin ou quand il sera bloqué ou quand il aura
une circonstance
particulière, parce que à la régulière, avec en plus, je crois qu'ils avaient la même stratégie, hein, à un tour près, c'est kiff bourricot, et bah il peut pas faire grand chose.
Puis là, ils vont commencer même, d'un point de vue des stratégies, à donner des consignes, quoi.
Bah oui, c'est-à-dire que maintenant, s'ils veulent gagner et jouer le titre, va falloir qu'ils commencent à songer, je dirais pas à faire gagner Vettel devant Weber, mais bon, s'ils veulent prendre des points,
voilà.
Sans doute choisir entre les deux pilotes.
C'est vrai.
Parce que c'est la seule solution pour remonter, hein.
Puis il faut faire des doublés, il faut pas simplement gagner.
Ouais, voilà.
Il faut faire des doublés.
Bah, c'est la citation du week-end, citation de Barrichello, qui a dit que lui fallait qu'il fasse des birdies et que Button fasse des bogeys. Voilà.
Il a dit ça.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'il fallait que lui il mette un coup sous le par et que Button mette à chaque fois un coup sur le par pour pouvoir retrouver Button.
Là. Il a pas dit ça.
Ouais, non, je te jure, il a dit ça. Je vais même te retrouver la citation.
Je te l'ai dit, Silverstone, ça ressemblait déjà à un terrain de golf, alors c'est un peu normal, hein, il est dans la thématique.
Ah, je vais te citer la...
Et pendant ce temps-là, moi j'ai fait 3 birdies, moi vous en foutez, mais...
Voilà, donc... Barrichello, éternel second pour une fois devant son coéquipier et sur la même longueur d'onde. Il a d'ailleurs affirmé ses ambitions en filant la métaphore sur le golf. J'espère que Button fera des bogeys au prochain Grand Prix et que je ferai des birdies. J'espère que cette course représentera un tournant. Cité par F1 Live.
D'accord.
Et peut-être que Barrichello est un adepte du golf.
Peut-être.
Peut-être. Donc bon, c'est pour Vettel aussi, hein, va falloir que ça l'envoie, hein. Je dirais même pire, c'est qu'on a vu Button qui finit donc je crois 6e, mais à quelques tours de la fin, il est 8e.
Oui,
il marque un point et sur la fin, il se déchire avec la voiture, il va la chercher sa 6e place. Et on se dit même il va peut-être chercher la 5e. Donc voilà, si en ce moment Button, il a pas à s'inquiéter de ces scores là. Hein. Je crois qu'il a encore 25 points d'avance.
Oui, oui.
Ça va, il peut gérer.
Ah voilà, c'est...
Faut pas qu'il gère trop non plus.
Ah voilà.
Parce qu'on a quand même vu ce week-end pas mal d'énervement du côté de chez Button.
C'est pour ça qu'il faut attendre l'Allemagne, hein, parce que c'est vrai que là, tout de suite, on commence à s'enflammer. Mais bon... les Browns risquent de bien revenir quand même en Allemagne.
Bah, le truc, c'est qu'elles ont... Les Browns, elles ont été victimes du même problème qu'elles avaient eu, je crois, en Chine.
En Chine. Et même en Malaisie, hein, avant que la course soit arrêtée.
Voilà. C'est bien, hein. Comme c'est une voiture qui utilise assez peu ses pneus, dès qu'il fait frais, elle les utilise pas, en fait.
Donc, bon, le bon côté, c'est qu'on arrive au beau milieu de l'été, quoi.
Voilà. Ça arrive au bon moment, quoi. Et par contre, ce qui est assez inquiétant et ce qu'on a pu voir ce week-end, c'est d'abord de l'énervement de la part de Button. Plusieurs fois, on l'a entendu dans la radio dire que la voiture fonctionnait pas, etc.
Alors ah oui, il s'est énervé. Hein.
C'est quand même, en Turquie, il avait quand même dit cette voiture, elle est diabolique ou un truc dans le genre. Quoi. Elle est scandaleuse. Cette voiture est scandaleuse.
Il faut dire qu'elle a alterné sous virage et sur virage. Ça devait quand même être bien coton. Et puis bah il y avait c'était Silverstone, donc en plus il y avait peut-être aussi cette pression là.
Ouais, puis semble
ouais, aussi
la Silverstone avec annoncé comme un champion et tout. Puis je pense qu'il avait peut-être aussi un air de revanche dans l'air, se dire voilà, je vais montrer au public anglais que ça fait quelques années qu'ils m'ont ignoré et que voilà, je suis toujours vivant et que peut-être qu'il a été dépassé par l'enjeu.
Peut-être.
Rubens Barrichello 3e.
Pour le coup, bravo, parce que justement, il s'en est super bien sorti.
Ouais, mais il est généralement bon hein, sur circuit là, Barrichello. Par contre, on voit quand même l'écart. Hein, Weber a eu du mal à le dépasser, mais une fois qu'il l'a dépassé. Il y a 25 secondes.
Il l'a enrhumé.
Non, mais voilà, il a su passer au travers, en tout cas au-dessus de ses problèmes, justement, de température.
Ouais. Mais peut-être aussi, c'est vrai que
je pense que c'est possible.
Chez Brown, apparemment, on a plusieurs fois évoqué le problème, depuis le début de la saison. Il semblerait que Button se serve des datas de Barrichello occasionnellement quand il est en souci. Et je pense que là, étant donné les températures, il a dû sans doute se servir des datas de Barrichello. Il s'y est peut-être mal adapté. Et en plus, le style de conduite de Button, qui a un style très coulé, fait qu'il n'est pas très méchant avec les pneus.
Ouais.
Et donc, ce qui fait sa qualité à lui et à la voiture sur un autre grand prix qui fait chaud, a fait son défaut. Alors que Barrichello, ce qui fait son défaut sur les autres, à savoir qu'il bouge trop les pneus, bah là, effectivement, il a mieux chauffé les pneus, il les a mieux montés en température. Et donc, il s'en sort un peu mieux. Même si, je crois, dans les tours, Button et va quand même plus vite que lui. Hein.
Ouais.
Meilleur tour de Button, 54e tour, 1289, et Barrichello, il est juste derrière, au 18e tour, 1.21.429. Donc Button, quand il s'est mis dans le rythme, et je pense que quand il a fait le deuil de ses ambitions en Grande-Bretagne, il a commencé à gérer pour le championnat, puis bah là il s'est réveillé, puis il est allé chercher les points qu'il fallait.
Voilà.
Quatrième, Felipe Massa.
Alors, il a dit que ça avait été sa meilleure course de l'année.
Ah mon dieu.
Il finit quatrième.
Ouais. Et surtout sur un circuit où l'année dernière il avait fait 6 ou 7 360.
Le record du tour.
Ouais.
Sur lui-même.
Voilà. beau départ. Puis alors, je sais pas, bien meilleur au stand ou un truc comme ça, parce que la performance par rapport à Kimi, alors c'est Kimi qui a été nul à chier sur ce week-end, mais la performance par rapport à Kimi, avec la même voiture, alors qu'il avait l'air quand même un peu moins bien sur le week-end.
Enfin, bah, il a dit que sa 11e place, finalement, ça l'avait aidé, puisqu'il avait pu mettre l'essence qu'il voulait.
J'ai même soupçonné ça à un moment donné. J'ai même soupçonné les mecs de Ferrari voilà. De se dire, comme de toute façon on va devoir faire la Q3, utiliser des pneus.
Et bien sûr qu'ils n'ont fait que
ça. Je pense qu'effectivement ils se sont dit bon bah là il est 11e, qu'il soit 11e ou 8-9e, ça changera rien en course autant qu'il parte 10e.
Enfin voilà. En tout cas lui il a dit que finalement ça l'avait aidé.
Bon voilà, pas à part un magnifique départ qui il est pas le seul hein avec Raikkonen, mais sinon bon bah grosse course solide. Il a quand même souffert hein, à la fin avec le cinquième Rosberg qui est remonté sur lui, puis on a dans les derniers tours on a bien cru que Rosberg pouvait peut-être passer, puis en fait non. Puis surtout derrière Rosberg il y avait Button alors.
Ouais.
Donc effectivement cinquième Rosberg qui échappe à sa meilleure performance de la saison puisque sa meilleure performance est une cinquième place, donc il l'égale, mais il aurait pu être quatrième.
C'est à peu près les eaux dans lesquelles on retrouve la Williams. Hein.
Ouais et puis ils sont super fiers, ils ont l'impression d'avoir fait un bon. Voilà. Bon c'est bien, ils commencent à déjà réaliser des meilleurs qualifs.
Ouais. Il faut qu'ils concrétisent quoi. Parce que les week-ends commencent en règle générale bien pour eux.
Ils finissent mal.
Voilà.
C'est ton chouchou, Enzo Rosberg?
J'aime bien Rosberg.
Alors, McLaren ou BMW?
Bon, pas BM.
Ah ouais, mais pourtant on le dit chez McLaren. Mais on le dit aussi chez BM. Apparemment, il aurait des contacts avec BM. Mais que lui...
Qu'est-ce qu'il irait foutre chez BM?
On sait pas.
En même temps, ils doivent regretter qu'un truc, c'est de ne pas avoir une équipe cliente. Parce qu'il n'y a que des équipes clientes qui marchent bien, à part Ferrari.
C'est vrai.
Ouais. Alors, quoi que McLaren, ce serait une équipe cliente, hein. je pense que BMW, c'est une piste pour être, entre guillemets, le pilote numéro un de l'équipe, parce que c'est un poste qu'il n'aura pas chez McLaren.
Non.
Voilà. Puis, honnêtement,
ce sera numéro 2 de luxe, quoi.
J'avais déjà pas envie de voir Kovalainen chez McLaren, c'est pas pour y mettre Rosberg. J'aurais trop peur qu'il lui foute les mêmes stratégies qu'à Kovalainen, stratégie à plein, et pauvre Rosberg, il va me faire mal au cœur.
Tu veux Nakajima ou Piquet chez McLaren? Histoire d'être sûr que le deuxième soit bien nul, quoi. Ouais.
Jenson Button, 6e, on va pas s'attarder sur Button, on en a déjà parlé. Sauf 6e place, on dira, et puis il est pas très loin de Button et de Rosberg et Massa, il est qu'à 2 secondes de Massa.
Ouais.
Bon, c'est un bon résultat étant donné le mauvais résultat qui s'annonçait quand même pour lui. Derrière Button, on a Trulli sur sa Toyota. Trulli égal à lui-même en course, hein, donc effectivement.
Voilà.
Mais pas autant que le 8e.
Ah là là.
Kimi Raikkonen.
Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de lui?
Allez, vas-y, j'ai dit, défends-le-nous.
Mais c'est ça le pire, c'est que tu peux... Ah, je peux le défendre en disant qu'il a fait un bon départ.
Ouais, il fait un super bon départ.
Voilà. Un truc un peu couillu, là, comme ça, bien la Raikkonen, comme on aime bien. Hop, j'essaie de doubler par en passant par la déviation.
Je vais prendre le deuxième circuit, celui qui est vert.
Voilà. Et puis après, bah, c'est le Kimi qu'on n'aime pas.
Voilà, le Kimi qui, quand il joue pas la gagne, et bah, il baisse les bras.
Ouais. J'en viens à me dire, vaut mieux qu'il s'arrête maintenant, que ce soit pire après.
Bah, disons que l'année prochaine, oh, peut-être chez Manor. Manor ou Campos.
Oh non, mon dieu.
Non, je pense que Kimi, je pense qu'il s'arrêtera l'année prochaine ou peut-être cette année. Je pense qu'il s'arrêtera. J'espère pour lui, ouais. J'espère pour lui qu'il s'arrête.
Il a dit que Ferrari c'était son dernier contrat. Hein.
Donc, voilà.
Il s'y tiendra. Ça, on sait, il s'y tiendra.
Ça, c'est pas sûr.
Quand même.
Écoute,
il est en train de se préparer pour le rallye et tout. Bon, d'accord, il fait des crashs et tout, mais bon.
Quand il a gagné son premier titre, il a dit, ouais, c'est bon, j'ai gagné mon titre de champion du monde et tout ça. Moi, je disais, non. Et comme tous les pilotes, il y a un titre. Le premier truc qu'ils veulent quand ils ont gagné un titre, c'est d'en gagner un deuxième. Et non, il s'en fout vraiment. C'est-à-dire qu'il tient à sa parole. Voilà.
Surtout
donc,
quand
Kimi,
rouge.
Ferme ta gueule, roule, ou alors casse-toi.
Non mais ce qui est terrible, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment donné, il y avait quoi, 20 tours qui avaient passé, et j'avais vu Kimi 5e, et là je vois Kimi 9e. Et j'étais obligé d'aller sur Eurosport, sur le live écrit d'Eurosport, pour me dire, attends, il a eu un pépin au stand, etc. Non, en fait, il était juste
en stand,
il était ressorti, et à chaque fois il est ressorti derrière un mec, puis il a pas essayé de le doubler, il a pas essayé de regagner sa place, donc comme ça il a reculé de place en place à chaque fois. Voilà, il a fait son passage en F1 et maintenant il y reste juste pour se faire plaisir. Sauf qu'il y reste dans une équipe qui est Ferrari, qui veut se battre pour l'avant-poste, qui a une grosse communauté de fans derrière lui, qui sont plutôt exigeants. Et y a qu'à voir, hein, on était 3 anciens fans de Kimi et on est 3 personnes exigeantes. Et on le critique de plus en plus, au point de vouloir qu'il se barre. Donc voilà. Pour la suite, on peut parler de Timo Glock, qui fait 9e. Voilà.
Ouais.
On va peut-être s'attarder 30 secondes
sur Physico, là.
Physico, qui fait 10e, qui a été pas loin d'ailleurs de la 8e place, hein.
Il a été
3e.
Ouais. Et au final, il aurait pu se battre pour la 4e place, pour la 8e place. De toute façon, la Force India a bien marché ce week-end, hein.
Oui. Puis on l'a dit, cette année, la Force India, c'est pas une chicken mobile. Ça,
non,
c'est
voilà.
Clair. Par contre, l'an prochain, avec les nouvelles équipes...
Ah non, l'an prochain, ce sera une grande équipe. Hein.
Ah oui.
Allez, face à Manor Campos et USF1, ils ont de l'expérience.
Ah, ça veut rien dire. Hein.
Oui, c'est vrai. Surtout si... Alors, ça c'est drôle, c'est que les grandes équipes aident les 3 petites nouvelles, mais n'aident pas Force India. Ça serait bon.
C'est bon, ils ont un bon partenariat avec McLaren Mercedes quand même.
Voilà. Quoique à chaque fois ils ont un bon partenariat, ils ont tout le train arrière qui est McLaren Mercedes, mais à chaque fois ils le détruisent, je vois pas l'intérêt.
Oui.
Là encore ce week-end.
Ouais, surtout ils auraient mieux fait d'avoir celui de Brown Grand Prix, quoi.
Ah non, mais bref.
Bah, il faut quand même mieux que McLaren, hein.
Faut qu'ils passent un contrat avec Mercedes et Brown. Le châssis de Brown et le moteur Mercedes.
Comme ça, c'est quoi.
Voilà. Mais deux contrats bien séparés. Hein. Il n'y a pas le droit aux équipes clientes. Bon, 11e, Kazuki Nakajima.
Ça, c'est décevant.
C'est ballot, quoi.
Ouais, voilà.
Voilà.
Sans doute, ouais.
Et je pense qu'effectivement, il s'est retrouvé coincé avec des pilotes. Et bah, comme c'est très dur de doubler à Silverstone, je pense qu'il a, au fur et à mesure, il a reculé un peu ce qu'a fait Kimi. Hein.
Non mais il a dû se dire je vais me caler sur le rythme de Raikkonen devant, avant il était juste devant lui, mais bon, il m'a doublé, je vais me caler dessus. Pas de bol.
Mais au moins il sauve l'honneur puisqu'il est devant Nelson Piquet, qui est 12e. Et Nelson Piquet, attention, miracle.
Ah mais oui, c'est vrai, tiens.
Nelson Piquet qui est devant Alonso.
Ah Ah ouais, ah bah champagne.
Eh oh, champomie, mais non, champomie pour piquer.
Champomie.
Ta... Ouais, oh.
Ah, il est trop jeune.
Quand encore. Tu vois comment il conduit quand il est sobre, t'imagines ivre. Donc en 13e position, Robert Kubica.
On l'a pas vu.
Niente da dire. En 14e.
Il paraît qu'il a bien entamé son quota de moteur.
Ah ouais. Il en a cramé. Oui, il en a cramé sur au moins 3.
Il en a utilisé au moins 6 déjà.
Ah bah ouais. Effectivement, ça va vite descendre.
Comment ils font quand ils en ont plus?
Bah quand ils en ont plus, bah, ils en redemandent un, enfin ils en reprennent un et donc ils prennent 10 places à ce moment-là et puis bah jusqu'à ce que le moteur lâche en fait.
Il va être 30e sur la grille.
Donc voilà. Le par exemple, si imaginons il arrive au Grand Prix de Belgique, il change de moteur, il prend le 9e moteur. Donc il prend 10 places. Et son moteur, bah, il peut le reprendre derrière en Italie, mais bon, il prendra pas de place, mais ce sera le même moteur. Puis il peut le reprendre encore derrière, s'il veut, à Singapour, puis encore derrière au Japon jusqu'à la fin de saison. Mais
à chaque fois, 10 places.
À chaque fois à chaque fois qu'il changera de moteur, il prendra 10 places.
Ah d'accord.
D'accord. C'est 10 places. Il serait parti 23e.
Voilà.
Là, il serait parti 20e.
Au rythme où il est gris, il va finir la saison entre la 22e et la 30e place sur la grille.
D'ailleurs, ça c'est un. Là, c'est un truc, je suis désolé, le mec, il prend 10 places, il est 13e, il prend la 23e place, mais après, hein, tu sais, il va sur la marque du 23e. D'accord, il a un boulevard devant lui, mais bon, il a perdu 10 places. Non, ça, après, c'est trop facile, le mec, il est 18e, il change de moteur exprès. Non, non, t'es 18e, tu changes de moteur, tu repars 28e.
Ah, mais le gars qui est 20e.
Bah, mec,
pense à l'an prochain, le gars qui est 26e. C'est-à-dire que le gars, il part, il a un virage à prendre avant de commencer la course.
Ça existait, ça, il y a pas si longtemps. Oui.
Même, je me rappelle, moi, le fameux Hungaroring, mon circuit préféré, hein, que le dernier, il prend le virage, il voit pas les feux rouges.
Bah, à Monaco, c'est pareil, hein, les derniers, ils voient pas. Ouais.
Oui, il y a pas longtemps, d'ailleurs. Bon, bah voilà, c'est BMW Sauber, cette saison. 14e, donc, Fernando Alonso. Mais bon, il nous a livré un bon combat avec Lewis Hamilton. Et c'était très beau.
Combat de pur panache.
Ah ouais, parce que franchement, se battre pour la 16e place. La 16e place, se battre comme ça. Alors tout le monde regrette que ça soit pas sur la première. Mais moi je regrette pas que ça soit pas sur la première. Je suis pas sûr qu'il soit battu comme ça pour la première place.
C'est ça qui est vraiment la place. C'est vraiment l'esprit chevaleresque, quoi. Voilà, on se bat pour la 16e place.
L'esprit chevaleresque, je sais pas. Je pense que c'est surtout parce que c'est Alonso face à Hamilton et qu'ils ils se sont dit non, pas derrière lui. Surtout pour Alonso. Je pense qu'Alonso il s'est dit non, lui je vais lui claquer son bec chez lui.
C'est un peu ça. Hein.
Voilà. 15e Nick Heidfeld. Même là il réussit à être derrière Kubica. 16e Lewis Hamilton.
Ah, cette McLaren.
Ah, ça fait mal.
Ils ont fait des modifs, ils ont enlevé le KERS, mais non. C'est toujours un support argenté qui roule pas.
Mais c'est ça, tu peux que. Bah oui, c'est ça. Sauf que ça aide pas à la digestion. Mais le pire, c'est qu'il finit 16ème. En finissant 16ème, il est quand même devant son coéquipier.
Ouais.
Ouais.
Quoique, normalement, son coéquipier était. Ah non, quoi, je crois que. Non, son coéquipier. Il était quand même devant son coéquipier avant l'incident. C'est...
Oui, il venait de le doubler.
Kovalainen, qui part 13e, et qui se retrouve 19e à la fin du premier tour.
Ouais.
Donc là encore, grand talent de McLaren cette année.
Mais c'est affreux cette voiture. Enfin, c'est à voir piloter, quand tu vois les pilotes en train de piloter... la voiture en essai en vue en caméra embarquée, tu vois Vettel et Button qui ils inclinent légèrement le tournant le volant, la voiture elle tourne, elle prend la courbe, etc. Et tu vois alors je voyais Alonso qui était quand même beaucoup en train de se battre avec la voiture, Massa pareil, puis tu vois Hamilton, il est en train de bagarrer avec son volant, il court même pas en fait en Formule 1, il se bagarre avec sa voiture. Le grand malheureux du week-end sans doute, Adrien Sutil, qui en essai s'est souvent payé le luxe d'être devant aux avant-postes dans les 6 premiers, qu'en qualif pouvait espérer peut-être quelque chose, notamment passer en Q2, et puis qui, bah, pour un pépin de frein et une course derrière qui est pas bonne, bah, finit très très loin. Alors que son coéquipier physique est là, puis faire course. Donc c'est ça, c'est un peu l'équilibre depuis quelques temps entre, au sein de Force India, c'est que, on a Sutil, qui a l'air de bien fonctionner, peut-être même mieux que Fisichella, puis en course, bah, Fisichella finit toujours mieux que Sutil. Et puis le 18e, Sébastien Buemi sur la Toro Rosso, pareil, course difficile. Moins difficile que son coéquipier.
Ouais.
C'est clair.
Qui s'est accroché avec Eki Kovalainen juste après la sortie des stands.
C'est très drôle, c'est quand même très drôle sur Stat F1. Quand il y a la cause du...
Ah oui!
Sébastien Bourdais, il y a marqué Tion d'eau.
Alors, non.
Non, mais c'est vrai en plus.
Bourdais, c'est vrai, parce que son abandon, il est pas fait à l'accident. Par contre, ce qui est très drôle, c'est l'accident d'Eki Kovalainen, c'est tenue de route.
Donc, tenue de route, ça s'appelle se faire défoncer l'arrière.
Voilà, hein, quand tu te fais déchiqueter l'arrière.
C'est tenue de route.
Alors, bon, c'était la petite polémique du week-end, hein. Enfin.
Ouais.
Polémique sportive du week-end.
Non, mais tout le monde dit que c'est la faute à Eki, hein.
Ben oui, parce que alors en plus c'est la manière de se défendre d'Eki, c'est Bourdais, il dit voilà, moi il a fait ça, il a zigzagué devant moi, etc. Je l'ai tapé, etc. Et puis donc c'est super argumenté et tout. Et t'as Eki qui dit ah non, c'est pas moi, c'est lui qui m'a tapé. Voilà, l'argument d'Eki. Enfin, c'est ridicule, il se bat comme ça à la sortie des stands alors qu'elle a des pneus froids, qu'il est lourd, plus lourd que Bourdais. Bourdais qui va sans doute, soit il va finir devant, soit il va finir derrière, mais bon, c'est pas là que la course se joue. Et l'autre, voilà, il zigzague devant lui. Bourdais anticipe pas assez, c'est peut-être son tort, mais bon, sans doute, Kovalainen, il est... je sais pas. Vous voulez peut-être faire chauffer ses pneus en traînant le short.
On connaît Bourdais, si ça avait été de sa faute, il l'aurait dit. Parce que Bourdais, c'est quand même... il est énervant pour ça, vous vous souvenez? Une fois, il s'est qualifié devant Buemi.
Ouais,
au lieu de dire, ouais, c'est bien et ça, il a dit, non, mais c'est normal, Buemi, il a un problème. Non, tu dis que c'est bien pour toi.
Ouais, c'est son grand défaut, hein. Même là, on avait un doute par rapport au Mans où il a fait deux erreurs, Il y a eu deux problèmes avec sa Peugeot 908 au moment où lui était au volant. Un premier problème, malheureusement, il a pris un vibreur, ce qui apparemment a détraqué une pièce sur la voiture. Et là, tout le monde lui a dit, non mais tu sais, c'est pas de ta faute, tu viens de la Formule 1, vous êtes habitué à passer les vibreurs, là t'es pas habitué à ce genre de voiture.
T'as pris
le vibreur, en plus il faisait, je crois que c'était un triple relais, t'as pris un vibreur, c'est pas grave. Alors lui, il s'en voulait à fond. Et ensuite, deuxième erreur, malheureusement c'est pas de sa faute, il se fait toucher par une Porsche et encore une fois il perd du temps. Donc le truc c'est que juste derrière, et c'est là où il y a un problème pour lui, c'est que juste derrière il te fait des temps mais phénoménaux. Il te remonte à chaque fois qu'il montait dans la voiture, il gagnait 50 secondes sur la voiture qui le précédait. Et il oublie ça, quoi. Il se focalise sur ses erreurs et il oublie de regarder ce qu'il a fait super bien. Parce que sans doute ça a été sans doute lui le meilleur pilote sur la piste, parce qu'il t'a claqué des temps, mais absolument monstrueux, quoi. D'une régularité, un vrai métronome, quoi. Et psychologiquement, il s'arrête à ses erreurs, et c'est dommage. Bon, voilà, ce qui est rassurant, c'est que l'année prochaine, il aura choix entre plusieurs équipes.
Ouais.
Je pense que pour les Campos, Manor et peut-être USF1, parce que c'est USF1, c'est peut-être une piste probable, je pense que Bourdais n'a pas à s'inquiéter pour s'embarquer la saison prochaine. Il a l'expérience.
Ah bon.
Hein?
Toi,
tu penses qu'il sera plus là?
Ouais.
Ah bon?
Avoir un pilote qui a déjà fait de la F1, ça va quand même être ça va être très utile pour elle.
Bah, ils vont se battre, hein. Moi, c'est pour ça que je pense que des mecs comme Barrichello, parce que je pense que Barrichello, ça sera peut-être sa dernière saison, si jamais Barrichello veut s'accrocher, il ira sans doute dans une équipe comme ça, un mec comme Trulli, un mec comme Fisichella, pourquoi pas, quoique Fisichella, il a l'air bien chez Force India. Un mec sur le déclin comme Alonso ou Hamilton. Voilà, bon, peut-être que... Quoique moi, je crois au scénario. Moi, je défends le scénario Alonso qui se casse de chez Renault à la fin d'année, qui va chez Campos Meta, qui est une équipe espagnole, et puis comme ça, il va se dire, quitte à faire une année de merde, autant faire une année au sein d'un projet espagnol où je vais... je vais rester dans l'histoire. Et puis hop, après, il se fait une petite année sabbatique juste avant d'aller chez Ferrari en 2011.
Tout le monde s'appelle pas Prost.
Ouais, mais on en part en fin de saison. Donc on fait les classements du week-end, Shinji.
Ok. Donc, Jenson Button, il est premier. Il sera encore premier après l'Allemagne. Il sera encore premier après la Hongrie. Jusqu'au 23 août, il est premier. Deuxième, Rubens Barrichello, 41 points. Sébastien Vettel, qui 39 points, il est juste 2 points derrière Rubens Barrichello.
Ouais, il remonte peu à peu. Hein.
Il remonte peu à peu. Weber suit d'assez près, 35 points et demi. Donc il se fait un peu décrocher, mais il est encore là, hein, Weber. Ensuite, donc la suite du classement, Jarno Trulli, Felipe Massa, Nico Rosberg, Timo Glock, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Heikki Kovalainen, Sébastien Buemi, et en 15e position ex aequo, Robert Kubica et Sébastien Bourdais.
Dire qu'on a les trois champions du monde qui sont 9e, 10e et 11e.
Ah ouais.
Ça fait...
T'avais pas dit qu'on faisait les trois premiers seulement?
Non, mais il y avait Marc Weber.
Il est pas très loin, donc
Ah, c'est vrai que c'est les quatre qui vont jouer championnat, sans doute, hein.
Voilà.
On voit mal Trulli quand même se battre, je pense qu'il a pas la voiture pour, mais Weber, c'est vraiment à l'extrême limite.
Chez les constructeurs, toujours Brown Mercedes, et 105 points.
Alors, c'est jusqu'à quand? La question à la con. Vas-y, fais 18 points par Grand Prix.
ils ont qu'un Grand Prix d'avance, cette fois-ci.
Ah.
Ils seront premiers en Allemagne.
Ah non, il y a deux Grands Prix d'avance, hein. 18 plus 18, ça fait 36. Ils ont 74. 74 à 105, ils auront...
Ça fait 31 points.
Ah oui, effectivement. Excuse-moi.
Voilà.
Oh là, j'ai dit, voyons. Oh, réfléchis un peu à ce que tu fais.
Donc, Red Bull, 74 points et demi. Donc, ils peuvent être premiers dès la Hongrie. Bon. Il va falloir un gros concours de circonstances, mais ouais. Ils le peuvent. Toyota, alors eux, par contre, 34 points et demi, ils ont 40 points de retard sur Red Bull.
Ouais. Bah, c'est mort.
Et ils voient même revenir Ferrari qui a 26 points.
Ouais, là, ça sent bon, là.
La suite du classement, c'est Williams, 5e position.
Qui passe devant Mercedes.
Ouais. 6e, McLaren. 7e, Renault. 8e, BMW. Et 9e, Toro Rosso. Comme d'habitude, les Force India, 0.
Et puis, ils ont bien failli marquer des points.
Ah là, ouais. À chaque fois, ils sont pas très loin, et puis, il leur arrive un truc.
Et plouf.
Plouf, plouf.
J'ai oublié mes petites pit stats. La catégorie qui intéresse vachement Enzo, donc ça va permettre à Enzo de faire un petit break de 30 secondes pour s'endormir.
Ouais.
Donc, le temps moyen passé au stand ce week-end, c'était de 24 secondes 231. À signaler que parmi ceux qui ont passé le moins de temps au stand, c'est Nelson Piquet qui a passé le moins de temps au stand avec 26 secondes 0,77. Mais il n'a fait qu'un seul arrêt au stand.
Ah.
À l'inverse, Bourdais a passé le plus de temps au stand puisqu'il a passé 1 minute 1 811.
Bah, c'est normal, il est resté à partir du tour.
Voilà, hein, il y a passé beaucoup de temps à cause de son changement.
Il s'est arrêté au tour 37, donc il y a passé 23 tours.
Non, mais
il s'est arrêté au 24, voilà, il s'est arrêté au 34.
Voilà, il s'est arrêté, ils ont pas compté en fait son arrêt pour l'abandon, puisqu'il est compté dans les statistiques, ils ont juste compté son premier arrêt et l'arrêt qu'il a fait juste derrière pour changer de museau avant. Ouais. Donc c'est l'arrêt du museau avant qui explique qu'il est si loin et qu'il met 1 minute 1. En moyenne par arrêt, donc on a Trulli qui est une nouvelle fois le meilleur au stand avec un arrêt moyen de 22 secondes 543 pour deux arrêts au stand. Le plus mauvais, c'est Bourdais, hein, naturellement, puisqu'il fait deux arrêts et qu'il est donc un arrêt moyen en 30 secondes 906. À noter qu'on a dit que Piquet avait été celui qui avait passé le moins de temps au stand en une stratégie à un seul arrêt, mais qu'il est à la moyenne, il est le 18e sur 20 pilotes. Ce qui s'explique bien évidemment par le fait que comme il a fait qu'un seul arrêt, il a mis plus d'essence, donc il a été plus long au stand, hein, d'un peu plus de 4 secondes. Le podium lui reste inchangé, Trulli est toujours premier, Glock est toujours deuxième et Kovalainen troisième, sur l'arrêt moyen depuis le début de la saison. Et puis bon bah comme on aime bien Piquet, hein, Piquet il est toujours en 30 secondes 191, à 1 seconde 2 de Nakajima, qui est 19e, et à 3 secondes 5 d'Alonso, qui a gagné une place en prenant la 15e position de notre classement. Donc voilà, voilà, c'était pour les petites stats du week-end. Donc, on fait le sondage du fait marquant de la course.
Ok.
Est-ce que je dois vraiment citer les chiffres du dernier sondage?
Ah, regardez-le, il fait le fier. Comment il fait le fier, là?
Ah, je ne sais pas. C'est la première fois qu'il gagne. Oh non, ça doit être la deuxième. Non, j'ai gagné ex aequo la dernière fois.
Oui, c'est vrai.
Alors, nous vous proposions donc pour le Grand Prix de Turquie, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix? Vous aviez le choix entre Vettel qui craque dès le premier tour, le dépassement de Piquet sur Hamilton, un truc dont je ne croyais même pas qu'il allait faire 30 tu vois, et le mauvais départ de Barrichello. Vous avez choisi avec clairvoyance et intelligence de me faire confiance et de voter pour Vettel qui craque dès le premier tour, qui l'emporte donc avec 45% des voix, des 11 voix qu'on a eues. Le dépassement de Piquet sur Hamilton finit en deuxième position, bravo Enzo. Et la petite surprise, c'est que le mauvais départ de Barrichello ne fait que troisième avec 18% et deux de vos votes. Il n'y a pas de vote cette semaine parce qu'on a eu des pépins sur le site qui a déménagé de façon
impromptue.
Et puis il a été en panne pendant deux jours le site, donc je pense que il y a aussi ça qui a joué. Même si c'est pas une excuse. Mais bon.
T'en fous, toi, t'as gagné!
Donc voilà, merci, chers auditeurs. Donc, pour le Grand Prix d'Angleterre, fait marquant. Allez, je suis classe, on va le faire dans l'ordre inverse du classement. Donc, Shinji, que proposes-tu?
Je vais mettre les difficultés de Button, c'est quand même la grosse nouvelle. Enfin, le voir, entre guillemets, aussi mal classé, parce que sixième, voilà.
Enzo.
Le burn d'Hamilton.
Ah ouais, ça c'est
pas la course. Ça c'est classe.
Ouais. D'ailleurs, ça devrait être autorisé, ça.
Oui.
Ah, tu m'étonnes.
Donc ça me concerne un peu parce que moi je voulais dire Hamilton qui peut pas défendre ses chances cette saison. Je dirais. Voilà. Je vais regarder ce qui me reste. La course sans partage des Red Bull. Donc voilà, donc on vous proposera comme d'habitude hein, le petit sondage sur le site www.savf1.fr.nf et vous aurez le choix entre la course sans partage des Red Bull, Button qui est mal classé pour la première fois de la saison et le burn-out de Hamilton. Le pilote de la course?
Le podium, tu veux dire?
Ouais, on fait notre podium. Bon.
Je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. Hein.
Voilà, ouais. Hein, premier donc Vettel. On lui donne 5 points.
Voilà.
Deuxième, qui?
Physico.
Deuxième, Physico? Moi, je pensais mettre Physico, mais je sais pas si je l'aurais mis deuxième. Je voyais qui d'autre.
À voir qui est deuxième. Tu veux que je te dise mon 3 pour...
Ah, vas-y.
Ouais.
Moi, je pense à Alonso.
Alonso en 3?
Alonso en 3?
Alonso.
T'as vu comme il s'est battu?
Il s'est battu?
Ouais. Ah, avec Hamilton.
Il s'est battu pour une place.
Non, mais contre Nick, contre...
Ouais, alors dans ce cas-là, oui, on va physiquer la deuxième.
D'accord, voilà.
Parce que là, le Alonso, je suis vraiment pas convaincu. Hein.
Moi, je propose, hein, vous dites après.
Ouais, non, franchement, Alonso, alors là, le coup, je suis...
je prépare 2010.
Ouais.
Ouais, ça moi, se sent. T'aurais dit qui, toi, Shinji?
Moi, j'aurais mis Weber en 2 et à la limite, Physico en 3.
Alors moi, je suis pas d'accord, ça, j'aurais pas mis Weber, moi. Bon, alors déjà, on s'entend sur Physico, donc on...
Ouais.
Peut-être le mettre... Tu mets Massa.
Moi, je pensais à Massa, moi. Je trouve que Massa...
Ah ouais, pourquoi pas, ouais.
En partant 11e en dehors de la faute, je pensais effectivement mettre Massa en 3e, parce que il fait une bonne course, assez solide, et puis lui, au moins, avec la voiture, il se déchire pour aller chercher un résultat.
Ouais.
Ok, alors, au classement général, nous avons toujours Button en tête, hein, comme il avait dit points d'avance, ça change pas.
Voilà.
Donc, en tête avec 21 points, Vettel deuxième avec 16 points, il prend 5 points d'un coup.
Il se rapproche.
Weber est donc troisième avec 7 points, Timo Glock est quatrième ex-aequo avec Barrichello avec 5 points, Massa s'empare de la sixième place avec 4 points, Alonso donc est septième avec 3 points, ex-aequo avec Rosberg. Ex-aequo avec Rosberg et Fisichella, j'ai oublié Fisichella qui a donc pris 3 points cette semaine. Et puis en dernière position, nous avons Bourdais, Kubica, Sutil, Raikkonen et Piquet qui ont chacun marqué 1 point. Voilà, voilà pour le classement que vous retrouvez donc sur le site du SAV assez prochainement. Maintenant on passe au drive-thru of the weekend.
Mm-hmm.
Vous en avez, je vais peut-être commencer, tiens, pour changer.
Mm-hmm. Ouais, vas-y.
Parce que justement, bah, comme on parlait de lui, donc je vais en parler. Moi, ce serait contre Alonso et Renault.
Ah, parce ça faisait longtemps.
Ouais, ça faisait un bail. Hein. Parce que Alonso, on l'a vu assez fringant vendredi en essai. Il a été d'ailleurs, je crois, troisième ou cinquième de je sais plus quelle séance. Donc il a été plutôt bon. Il a gagné à Silverstone il y a deux ans. Il y a deux ans, en 2006.
Ouais.
Et donc il est bon sur circuit. Il était performant ce week-end. En 2007, donc effectivement il y a deux ans. Et allez savoir pourquoi. Alors que depuis le début de la saison, la voiture est pas bonne et il s'entête à lui donner une stratégie avec un petit plein d'essence, une stratégie super agressive. Là, il est plutôt bon. La voiture avait l'air de plutôt bien fonctionner et il le charge comme un mulet, alors qu'il aurait pu partir avec une voiture légère, faire la différence, et comme sur Silverstone, de toute façon, c'est difficile de se démarquer, prendre des places. Au lieu de ça, bah, il est super lourd, il se fait doubler par des pilotes qui sont plus légers derrière lui, il fait un mauvais départ, donc ça le pénalise complètement, et voilà, donc c'est une stratégie qui est, depuis le début de la saison, la stratégie de Renault est pas compréhensible, et là, elle est vraiment pas du tout compréhensible, et je tape sur les deux, parce que je pense que à ce niveau-là, c'est Alonso et Renault qui prennent la décision. Et je vois pas trop d'où vient cette stratégie de faire partir Alonso avec une stratégie d'attente comme ça. Alors que sur Silverstone, il n'y a pas à attendre, c'est un circuit rapide, faut pas réfléchir, faut partir avec une stratégie la plus agressive possible. Donc voilà. Et donc à vous de voir.
Vas-y, Cindy.
Bon, ok. Bah tiens, ça va être dans la grande tradition des drive-thru à la con.
Ah bah non, on le garde pour la fin alors, s'il est à la con.
Eh bien, c'est à l'encontre du ou des gars, je sais pas, qui s'occupent des trophées. Hein. Puisque on aura remarqué que Vettel, il a eu un beau trophée, ciselé et tout, machin, un vrai beau trophée de Grand Prix de F1. Et les autres, ils sentent le pâté. Et comme ils sentent le pâté, eh ben le trophée qu'on leur donne, c'est le logo de Santander, le sponsor de la course.
C'est un fabricant de pâté ?
Peut-être.
En même temps, ouais. Je pense quand même que les pilotes, ils s'en foutent quoi. Ce qu'ils veulent comme trophée, c'est le trophée du numéro 1.
Non mais de toute façon, il les garde pas de toute façon.
Voilà, donc je pense qu'ils en ont rien à faire quoi. Ce qui les intéresse, c'est
de les garde pas.
Bah souvent c'est les équipes qui les récupèrent, voilà, c'est dommage. L'an dernier t'avais au moins 4 courses où c'était le même trophée parce que c'était le logo de Santander, même le logo des constructeurs là, enfin le trophée des constructeurs
c'est le même
truc là, voilà,
c'est le logo de Santander en vert d'ailleurs je crois,
voilà.
C'est vrai que en même temps à la limite
c'est triste quoi,
c'est triste, mais en même temps c'est le pilote qui gagne, c'est normal qu'il ait entre guillemets la belle coupe quoi.
Ah non, mais ça, y a pas de problème. Mais
ce qui est con, effectivement, c'est que ce soit à l'image d'un sponsor, quoi. Ils auraient pu faire un autre trophée. Alors, Enzo.
J'en ai pas.
Non.
Si.
On a pas un.
Non.
Ah, trouve-en un merdique, on s'en fout.
Même pas, je sais pas, la couleur du gazon, la taille des gradins, le quatrième commissaire du troisième virage.
Même contre Kimi, on t'autorise à taper sur Kimi, merde.
Ah bon? Non, c'est, allez, si, ça va être au top team. Parce que ce soit McLaren, Renault, Ferrari ou BM, ils sont nulle part, ils sont incapables de revenir et voilà.
C'est une œuvre.
Bah, pour la saison, là. Puisque même Kimi a dit que la F60, ils étaient au bout du développement. Ils n'allaient pas pouvoir la développer plus.
Voilà.
Ouais.
En même temps, il faut préparer le championnat, enfin, le vrai championnat, quoi.
Le vrai championnat.
Oui, mais c'est un numéro impair, donc on sait qu'il donnera rien pour lui.
C'est vrai que pour ça qu'il faut qu'il se casse, quoi. L'année prochaine, c'est pire. Va-t'en.
Ça va être pire.
Et c'est là que l'an prochain, juste pour sa dernière saison, juste pour nous qu'on est arrivé, il nous sort une saison du feu de Dieu. Il nous gagne 15 Grands Prix sur 18, non.
Oh, ce serait chiant.
Oh non, ça serait chouette. Imagine, il gagne les 15 grands prix, mais à chaque fois dans le dernier tour. Bon bah voilà, on est enfin en forme sur les drive-through of the race. Donc pronostic pour le Grand Prix d'Allemagne qui se déroulera donc cette année au Nürburgring.
Ah, Vettel.
Ouais, Vettel, ouais.
Ah, Vettel, il est capable de réussir ce que Button n'a pas réussi.
Mais en même temps,
gagner chez lui.
on disait Button va gagner et puis Button n'a pas gagné.
Ouais. Donc, bah allez, Button.
Button. Moi, je serais tenté de dire Hamilton, mais il faudrait qu'il y ait une grue. Non, moi, je parierais sur
Sébastien Buemi.
Allez, Glock.
Ah, pas mal, intéressant.
N'importe quoi.
Ouais, mais j'essaie de trouver un truc différent. J'aurais préféré que je dise Heidfeld.
Non, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais pas dire Button, je vais dire Barrichello, parce qu'on a marre de dire tout le temps Button.
Ah, puis moi, je vais pas dire Glock, je vais dire Rosberg.
Ah non, c'est moi.
Ah bah alors donc tu dis Rosberg et moi je dis...
Non. Le jour où il gagnera, c'est moi qui le dirai.
Donc je garde Glock, ok. Vraiment, je suis un bon pote, hein, parce que franchement... Barrichello pour aussi dire. On s'en rappellera. Je sais même pas qui c'est qui avait pronostiqué Vettel pour le Grand Prix.
Bah moi.
Ah bon?
Non, je sais pas.
Il dit ça comme une évidence.
Avant de finir l'émission, on va passer au concours Top Opposition. Concours Top Opposition qui a connu un grand succès cette semaine. Puisqu'il y a eu, écoutez bien, parce que c'est un chiffre extraordinaire, le nouveau chiffre inutile de Yannick, hein, vous le semaine. Hein, il y a eu, ouvrez bien vos oreilles, il y a eu un candidat qui a répondu.
A-t-il au moins bien répondu?
Même pas.
Non.
Non, je déconne. Non mais faut avouer qu'à chaque fois qu'ils répondent, ils ont bon. Donc Shinji, tu nous rappelles la question.
La question hyper compliquée de la semaine dernière.
Ouais, bah ça, en plus ça a été bizarrement formulé, donc c'est franchement.
Oui, d'ailleurs là je lis le texte, je suis même pas sûr que tu l'aies dit dans ces termes là.
Non mais même moi je suis sûr que je l'ai pas mis dans ces termes là.
Alors la question. Quel pilote de F1 a été en compétition entre la Turquie et le Royaume-Uni alors qu'il n'y a pas eu de Grand Prix? Et la réponse, c'est Cocorico. Il est arrivé deuxième. C'est Sébastien Bourdais au 24 heures du Mans.
Une personne a répondu à la rotation tirage au sort. Alors, j'écris le nom. Alors, c'est Jérôme qui a répondu. Jérôme qui avait gagné lors de la dernière émission. Donc, j'écris le nom de Jérôme sur un papier. D'accord. Et j'écris sur ce papier le numéro 1.
Ah, attends, je me concentre. Faut que je me concentre.
Alors je rappelle les chiffres. Je veux pas que tu te trompes dans les chiffres. Tu as le choix entre 1.
Ouais.
1.
1, ouais. Mon dieu, c'est dur.
Voilà. Alors, quel chiffre choisis-tu?
Écoute, je vais choisir la fraction 1 sur 1.
Et donc, c'est Jérôme qui emporte le magnète, un magnète personnalisé au Grand Prix de Grande-Bretagne.
Et j'ai envie de dire d'ailleurs un magnète collector.
Oui, parce que d'ailleurs, il n'y a pas écrit Grand Prix de Grande-Bretagne dessus, mais il y a écrit Grand Prix d'Angleterre.
Parce que Yannick, il n'a pas voulu que Grande-Bretagne, ça soit écrit en tout petit.
Voilà, parce que...
Donc
voilà.
Il a dit, je veux mettre Angleterre.
Et puis moi, j'ai toujours dit Grand Prix d'Angleterre. J'ai jamais dit Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est trop long à dire. Attention, hein, à chaque fois, vous avez un magnète différent. Hein, on ne revoit pas le même à chaque fois.
Ah non.
On a fait une série différente, hein. D'ailleurs, vous êtes les seuls à les avoir, parce que même nous, on les a pas, les magnètes.
Non.
Quand vous recevez le magnète, vous avez bien un magnète différent. Donc, la question top opposition du Grand Prix de... et Grand Prix de Grande-Bretagne. Question proposée par... Ah, Enzo.
Vous venez d'écouter le SAV spécial Grand Prix de Grande-Bretagne. Répondez maintenant à cette question. Quel pilote est le seul à être resté sur le podium en Grande-Bretagne par rapport à celui de 2008? Connectez-vous sur le site savf1.fr.nf et envoyez-nous votre réponse pour gagner un magnifique cadeau. À très bientôt pour le Grand Prix d'Allemagne.
Eh ben, merci Enzo. On vous rappelle, hein, c'est le formulaire de contact et puis voilà. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines et puis on vous souhaite un bon moment de détente parce qu'on sent que ces 3 semaines vont être des moments de détente puisqu'il n'y a plus de crise, il n'y a plus rien, que tout le monde sait.
Il n'y a même pas d'essai.
D'ailleurs, je vous aime Enzo, je vous aime Shinji, je vous aime auditeur, parce que tout le monde s'aime aujourd'hui en Formule 1.
Mais oui,
c'est de l'amour.
C'est beau.
Nelson Piquet, ouais. Je t'aime. Ralf Schumacher, je t'aime. Lewis Hamilton, je t'aime.
Tout le monde s'aime.
Donc voilà, donc on s'aime tous et voilà, on vous dit, on vous remercie de vos fidélités et on vous dit à dans 3 semaines. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.